Bonjour à tous, les portes du club s'ouvrent comme chaque mercredi, on est très heureux de vous retrouver, une bonne partie de l'équipe enfin au complet, pendant qu'il y en a qui prennent des vacances, on est ravis de retrouver...
Des vacances qui s'appellent Mémoire.
Notre Lola préférée qui est avec nous pour sa chronique littéraire tout à l'heure, tu vas nous parler de...
De Zinem Mekwar avec Souviens-toi des abeilles.
Bon, on va en reparler à la moitié de cette émission. À côté de toi, il est notre... chroniqueur rétro.
Original gangster.
On est ravis de le compter dans la loi des séries et dans le club depuis quelques mois maintenant. Et il nous fait toujours le plaisir de revenir avec, en allant essayer de retrouver des pépites parfois oubliées. Et aujourd'hui, un acteur qui évidemment on a peut-être vu dans, notamment dans Rocky, mais qui a une plus grosse carrière que ça, qui s'appelle...
Mr. T, aujourd'hui c'est l'heure du thé.
Voilà. Oh,
je l'ai préparé.
Ça fait 2 heures qu'il l'a préparé là-haut, en train de cramer.
L'affaire, voilà.
Et on est ravis, face à toi. Nos invités, nous recevons pour notre plus grand plaisir, on va parler de tueurs en série et d'une chanteuse, une des plus grandes chanteuses du lexique français, réinterprétée par une interprète qui porte ce spectacle depuis maintenant quelques années, Caroline Montier qui est avec nous pour un hommage à Barbara. Et on va revenir sur ce parcours-là et sur ce parcours de cette grande chanteuse incroyable, je disais, une des plus grandes signatures. Mais ça fait combien de temps que vous tournez ce spectacle ?
Eh bien, 2017, et nous sommes en...
Ça fait 8 ans, quoi !
Voilà.
Ça fait 8 ans. 8 ans que Barbara vous accompagne. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois les affiches, les photos, je me dis, qui aurait pu faire Barbara ?
Une petite air de famille.
Qui aurait pu faire Barbara, pareil ?
La fille cachée. Je suis la fille cachée de Barbara.
À vos côtés, chère Caroline, on va accueillir une partie d'une troupe qui va être au théâtre à partir du 5 juillet à Avignon, portée par un des comédiens qu'on avait... largement évoqué avec les Papillons Noirs sur Arte. On accueille pour parler de quelqu'un de pas, alors pas très sympathique, beaucoup moins sympathique que Barbara. Il s'appelle Roberto Zucco. C'est un célèbre serial killer italien et que vous adaptez au théâtre. La metteuse en scène Rose Noël qui est avec nous et Axel Grandberger qui nous a rejoint. Et je suis ravi de te redécouvrir, j'ai envie de dire. Encore dans la peau d'un tueur en série.
Je sais pas, ça doit être quelque chose que je dégage.
Ouais, tu inspires le tueur en série, écoute, oui. Je ne sais pas.
Je demande à chaque fois pourquoi tueur en série, ils sont là, c'est toi.
C'est toi, ouais. C'est toi. Enfin, autant que tu acceptes les rôles.
Oui.
Parce que tu le vaux bien, peut-être.
Je sais pas.
On va en reparler tout à l'heure.
Exactement, c'est trop tôt là.
On va en reparler tout à l'heure. Elle est à tes côtés, donc Rose qui met en scène. Voilà, il inspire les tueurs en série.
Alors, c'est important de rappeler qu'il incarne des personnages. Oui. C'est important de commencer par ça. Je ne suis pas Roberto Zucco, qui est la phrase un peu répétée dans le spectacle.
Facile à jouer.
Voilà, mais le monstre est fascinant. Donc, il y a peu d'acteurs aussi qui sont capables d'incarner les monstres avec. Enfin, c'est très dur, je pense. Donc, je pense que c'est plutôt. Faut le prendre comme un compliment. Hein.
Oui, moi, je pense que jouer des monstres, c'est beaucoup plus drôle. C'est beaucoup plus drôle que de jouer. Il y a beaucoup plus de subtilité et il y a beaucoup plus de choses à chercher. Il ne faut pas juste les juger tout de suite. Je veux dire, c'est pourquoi cet homme est poussé à faire les choses qu'il va faire. C'est ça qui est intéressant, en fait, de développer, de chercher, de se plonger là-dedans.
On va en parler dans un instant. On a pas mal de questions, évidemment, à vous poser. Comment on rend ça possible au théâtre ? Parce que c'est encore une arène particulière pour le faire, le cinéma. L'avait fait d'ailleurs, je crois aussi. Il me semble qu'il y avait eu un film sur Roberto Zucco.
Cédric Kahn.
Mais voilà, comment le faire au théâtre quand on a cette proximité avec le public ? On va en reparler dans un instant. Mais pour vous teaser un petit peu aussi ce qui va se passer dans l'émission, vous le savez, on aime bien mettre en avant des génériques de séries, de programmes, d'émissions, de dessins animés. Et on va ouvrir cette émission en teasing de ce qui se passera à la fin de l'émission avec un générique d'une série culte des années 80.
Rétro.
Voici rétro. Voici. Pour vous remémorer, si peut-être vous ne connaissez pas le monsieur qui est là, il a une peur bleue des avions. Regardez le générique tout de suite que l'on va voir grâce à Robinson, le générique télé, le premier de cette émission. Regardez. Voilà pour ce petit extrait du générique. On va voir apparaître la photo de l'équipe. Voilà, Mr. T, il est là-bas, on le reconnaît assez vite. George Peppard, Dwight Schultz,
Dirk Benedict.
Dirk Benedict, voilà, exactement. Pour futer. Ouais. Pour futer une espèce de croisement entre Mission Impossible et MacGyver, de l'agence touriste. Le générique signé Mike Post. Et alors, petite anecdote. Le générique est chanté par qui, tu te souviens ?
Ah bah c'est, évidemment, c'est chanté par Noam.
Noam.
Qui a chanté beaucoup de génériques. Oui.
C'est notamment le premier générique de Goldorak dans les années 70, ce petit garçon de 16 ans et tout. Et il est à la manette avec Shuki Levy à la musique.
Et Rahim Saban.
Et Rahim Saban, le producteur, aux manettes. On va y revenir tout à l'heure sur évidemment ce rôle-là. On a d'autres pépites que tu nous as retrouvées. Mais on va venir à notre première équipe. Vous l'aviez vu dans la série Les Papillons Noirs ou pas, Axel Camberger? Et bien, petite piqûre de rappel, voici la bande-annonce d'une des meilleures séries de ces dernières années, diffusée sur Arte. Incroyable, regardez.
Combien de temps ça peut prendre?
Tout dépend de ce que vous avez à raconter et de la fréquence à laquelle on se voit.
Non, tout commence avec Solange. Avant Solange, il n'y avait rien. Et comprends-moi bien... Là, je te raconte des dates, des lieux, des noms. Je décris des scènes avec des détails. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui se passait dans notre tête. Et ça, ça peut pas se raconter. Faut avoir vécu pour comprendre. Et c'est là que ton talent intervient, Adrien. C'est à toi de retranscrire tout ça, d'imaginer, de t'imprégner, de ressentir. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi.
Mais quelle série que j'avais pris un trip. Le pitch, juste pour vous dévoiler ce pitch-là, on est... Nils Herstrup joue un vieux monsieur qui reçoit un écrivain en perdition pour lui dire je vais te raconter mon histoire, je vais te raconter mes mémoires. Mmh. Et il lui raconte l'histoire, le parcours criminel d'un couple de serial killers dans les années 70 sur un sujet extrêmement d'actualité, puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe si on pousse jusqu'au bout la question du consentement? Finalement, une jeune femme victime d'une tentative de viol sur une plage se rebiffe et tue son agresseur, et à partir de là, ils vont mettre en place un mode opératoire qui est de pousser finalement tous les hommes jusqu'à ce point de non-rupture, de rupture finalement. Si les hommes acceptent d'entendre le non, ils survivent. S'ils n'entendent pas le nom, ils sont tués par ce couple-là. Sauf que ce que l'on voit à l'écran n'est jamais ce qu'il y paraît. Et Nicolas Duvauchel va jouer donc le rôle de celui qui va mettre dans les mots cette histoire en écrivant un roman qui s'appelle « Les papillons noirs ». Et le côté méta a été poussé jusqu'au bout, puisque au moment où l'épisode 4 arrive et où le roman « Les papillons noirs » sort dans la série... L'adaptation en physique sort au masque, et le roman Le Papillon Noir arrive aussi. Wow. Et tu joues donc finalement la version jeune de Nils Herstrup dans cette série, aux côtés d'Alizé Coste qui jouait Solange.
Solange, exactement. Ouais.
Incroyable série. Hein.
C'était une expérience incroyable, et surtout pouvoir travailler avec... j'ai du mal avec...
On voit la metteuse en scène.
Ah oui, jusqu'au bout, quoi, vraiment. Tiens-toi droit. Okay, oui,
je ne voyais pas.
Parle bien, le monsieur t'écoute.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout va bien. Non, mais comme je disais, c'était une expérience incroyable, et surtout aussi de pouvoir voyager dans le temps, parce que c'est quand même dans les années 70, même 60, un moment qu'on est vraiment, vraiment jeune, et partager ce rôle avec Nils, j'ai appris, quoi. C'était incroyable. Et la série, oui, c'est... C'est une série qui tient des propos qu'aujourd'hui on peut vraiment se
poser. Ouais,
ouais, c'est
très écho, réalisé par Olivier Abou.
Réalisé par Monsieur Abou, oui.
Ouais, et puis et notamment la sublime musique de Clément Merle. Mm-hmm. De Clément Théry.
Ouais.
Et Olivier Merle qui était au scénario, si je me trompe.
Non, Bruno Merle.
Bruno Merle, pardon. Bruno Merle. Voilà, qui était au scénario.
Ça va aller.
Et ouais, je vais y arriver. Mais sachez que rien ne vous prédispose à ce que vous allez découvrir à l'image, puisqu'il y a des twists tout le temps. Mm-hmm. Et notamment jusqu'au tout du bout. Donc, il y a le générique du 5 du 6e, mais n'arrêtez pas, il se passe quelque chose après le générique du 6e.
Ben, je pense qu'Olivier et Bruno ont pris 7 ans, 8 ans pour écrire ce scénario quand même. Hein. Du coup, vraiment, il y a tous les détails, il y a tout qui planifiait. C'est vraiment... moi, quand j'ai lu le scénario la première fois, je l'ai lu 4 fois, vraiment. Tout de suite. Je l'ai vraiment... Attaque de boulimique, je l'ai relu.
Incroyable. Surtout, ça se joue à plusieurs époques, à plusieurs temporalités. Mmh. Est-ce que ce que vous voyez est vrai? Est-ce que ce qu'il raconte est vrai? Enfin, bref, un petit bijou à redécouvrir. Je crois qu'elle est encore sur Netflix.
Ouais.
Il y a la bande originale qui est sortie en vinyle. Il y a un coffret magnifique, Les Papillons Noirs. Mais du coup, ma question qui vient, c'est est-ce que c'est d'avoir interprété ce tueur-là qui a fait que ça a débouché sur Roberto Zucco ou pas du tout?
Bah alors, Roberto Zucco existe bien avant Les Papillons Noirs. Alors, notre mise en scène. Hein. Alors,
Le voilà. Voilà. Le vrai.
Alors, ouais, c'est important de rappeler que nous, on fait un spectacle qui a été écrit par Bernard Marie Coltès, le vrai monsieur. Donc, on a en photo ici, il s'appelle Roberto Zucco.
Ouais.
La pièce s'appelle Roberto Zucco avec donc, un Z.
S-U-C-C-O pour le vrai.
Voilà, et Z-U-C-C-O pour la réécriture de Bernard Marie Coltès, l'écriture. Donc, ça a été adapté et fictionné autour de ce serial killer, mais ça a été vraiment fictionné. Hein. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on en fait, c'est vraiment le personnage, malgré le fait qu'on s'inspire énormément de Roberto Zucco, et c'est aussi pour ça que c'est notre interprétation à nous. Voilà, ça, c'était au Lavoir Moderne. Donc ça a existé en 2018, déjà au Festival d'Avignon, donc quelques années avant Les Papillons Noirs. Et puis, il y a eu La Cartoucherie en 2019, puis... Le Covid malheureux qui nous a tous touchés. Donc voilà, on revient un peu avant. Donc ça n'a pas tant débouché. Donc c'est une question, je pense. C'est plutôt dans l'autre sens.
Oui.
Je ne sais pas.
Il y avait d'abord Zucco.
Si tu as été nourri de Zucco.
Non, maintenant j'ai la presse.
Peut-être que les auteurs ont peut-être vu Zucco et se sont dit il est pas mal en,
oui,
en,
oui.
en personnalité sombre. Non, mais voilà, il y a quelque chose de. C'est vrai, quand on te voit, il y a quelque chose de très intense, de très profond, de très. Voilà, de très trouble parfois aussi. Et c'est vrai que pour incarner Zucco, c'est ce qu'il faut, parce que on le connaît pas bien, en fait, on connaît son nom, mais...
On le connaît pas très bien, c'est un fait divers qui est assez inconnu en France, malgré le fait qu'il ait fait sa cavale en France, hein, ce tueur en série. Donc soit on le connaît pas, soit on le connaît trop bien, et du coup on n'a pas très envie d'en parler, parce qu'il a pas non plus très bien agi, hein, qu'on soit bien clair, et il a été condamné surtout. Enfin, il a même pas eu le temps d'être condamné, parce qu'il s'est suicidé avant. Mais c'est important, enfin je trouve qu'il y a un truc qu'on disait beaucoup sur Roberto Zucco, et auquel Coltès s'est beaucoup attaché. S'il disait que dans les journaux, quand il y a eu le fait divers, il y avait écrit en titre « Comment un garçon si beau peut-il agir ainsi ?» Moi, je trouve que c'est une question qui est essentielle aujourd'hui. On a une image du tueur en série comme un espèce de loup-bar à 4h du matin avec une capuche sur les oreilles. Mais non, en fait, c'est beaucoup dit dans la pièce. C'est quelqu'un qui fait partie de tout le monde. C'est quelqu'un qu'on croise tous les jours. C'est quelqu'un qui est beau. C'est quelqu'un qui est attirant. C'est quelqu'un qu'on continue de trouver beau. Et ça nous met face à nos propres contradictions.
Il évoque aussi peut-être l'équivalent américain, Ted Bundy, par exemple.
Voilà, c'est ça. Exactement.
Quel type qui profitait justement de sa beauté et de son... Exactement. Très, pour attirer les femmes et les tuer, quoi.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est, je pense, aussi pour ça qu'on est, que les séries sur les meurtriers marchent autant. Enfin, c'est les plus grands trucs. Ted Bundy, Dahmer, tout ça.
Les
séries les plus regardées. Mmh. Moi, ça me fascine. Pourquoi l'humain est attiré d'aller comprendre le monstre?
Oui, mais par
pourquoi
contre,
on a besoin de ça, quoi.
C'est intéressant parce que là, on cite des séries, on cite des films. On va voir des extraits en photo de la pièce qui vont apparaître. Si Robinson peut nous envoyer les photos, on va les voir. Mais c'est quand même particulier de les mettre sur scène. Et de jouer sur scène quand le public est à 10 mètres de soi et qu'on joue ce genre de personnalité, est-ce que c'est quoi comme challenge pour la metteuse en scène, mais aussi pour le comédien dans ce qu'on peut montrer, dans ce qu'on doit pas montrer?
Moi, je fais un peu du parti. Je te laisse parce que je pense qu'en interprétation, c'est encore autre chose. Moi, je pense que justement, il faut la représenter, cette violence. On en a besoin. Moi, je pense qu'il faut qu'on en parle, il faut que ce débat soit ouvert, il faut qu'on parle d'agression, il faut qu'on parle de meurtre. Évidemment, c'est traité, que ça soit esthétiquement, tout en essayant d'être le plus proche, entre guillemets, d'une vérité, parce que voilà, mais c'est évidemment traité à chaque fois esthétiquement. En tout cas, c'est des questions qu'on se pose avec aussi mon équipe artistique qui est à la scénographie, aux lumières. Je ne suis pas seule à mettre en scène ça. On n'est jamais seul, de toute façon, quand on met en scène, mais surtout sur...
parce qu'on voit les photos, on voit
voilà.
Les...
Surtout sur ces actes, en fait, de violence... moi, je pense que c'est important de les représenter avec toujours une espèce de distanciation. Évidemment, l'idée n'est pas que le spectateur se sente en danger ou meurtri ou trop touché. Après, moi, je pense que le théâtre, il a été créé pour la catharsis. À la base, c'est ça. C'est pour expier nos malheurs. Alors, parlons-en ensemble pendant une heure et demie. Débattons à la fin. J'adore quand les spectateurs ne sont pas d'accord en disant « on ne peut pas faire ça comme ça ». Parlons-en, en fait.
Il y a eu Shakespeare, il y a eu Macbeth.
Bien sûr.
Exactement.
Il y a
eu
Richard III. C'est ça, je pense que c'est mis en scène. Je pense que, de toute façon, la question, c'est toujours le traitement, le point de vue. Je ne sais pas si on a le bon, je ne sais pas si on a la vérité, je ne pense sûrement pas. On parle avec nos cœurs, on parle avec nos tripes, donc c'est toujours subjectif. Mais en tout cas, on se pose la question de l'universalité, je vais réussir à parler, de l'agression, du meurtre. Voilà.
Lola, toi qui côtoies beaucoup et qui lis beaucoup de pièces et tout ça, la violence, on la perçoit différemment quand c'est une pièce de théâtre ou pas? Un roman ou même...
Je pense que c'est un peu le débat aussi avec les films d'horreur ou les choses comme ça. Je pense qu'en fait, au théâtre, il y a ce côté tellement vivant qu'on est obligé soit de s'identifier, soit de ressentir pleinement les émotions. Et la musique va jouer beaucoup, ou alors le fait qu'il y a un long silence et ensuite des cris, ou il y a des mécanismes sur scène qui sont hyper forts et qui nous percutent directement. Et du coup, qui font que lire un texte, c'est pas la même chose, ou le voir sur scène, c'est pas du tout la même chose. Et je trouve que le théâtre, c'est le moyen, je pense, le plus vivant et le plus choquant, en fait, pour exprimer ça.
Parce que tu disais, il faut pas que le public se sente en danger, mais pour reprendre cette grande phrase de Walter White dans Breaking Bad, je ne suis pas en danger, je suis le danger.
Je suis le danger.
Et le danger se rapproche du public.
Bien
quand
sûr.
Tu t'approches de lui, c'est-à-dire qu'il le, il est là, il le sent, il est palpable. Et objectivement, j'ai pas envie de te croiser à la sortie de nuit ou quand tu fais cette tête-là sur scène. Donc comment le rapport, tu le vois, toi, le public à ce moment-là?
Bien sûr, mais je pense que quand tu interprètes un rôle comme ça, et surtout Zuko, Roberto, c'est que tu peux pas vendre tes cartes en jouant tout de suite que le tueur en série. Je veux dire, il est tellement beaucoup plus subtil que ça. Moi, je suis pas là pour lui donner raison, parce que ça serait vraiment, je serais vraiment un vrai fou. Mais je suis obligé d'avoir de l'empathie pour le personnage pour pouvoir l'interpréter. Parce que si moi je le juge en tant que, ok, c'est un tueur en série, c'est un mauvais garçon, boum, du coup je vais juste me balader en faisant peur les gens. Mais en fait, la question intéressante avec Roberto, c'est comment ce garçon perdu, comment, et ça peut être aussi une question universelle, je veux dire qu'on est sur scène et oui, ça parle de violence et de l'enfermement qu'on a dans cette société, surtout aujourd'hui en 2025. Il y a plusieurs gens qui ont, je veux dire, sans faire de la politique à deux balles, mais qui en ont marre et qui se sentent enfermés dans leur vie. Et je pense que le théâtre, et surtout avec Roberto Zucco, c'est qu'on peut, on peut se sentir enfermé avec lui et qu'on peut avoir ce signal dans la tête qui nous dit « j'en peux plus » et qui nous fait faire des choses atroces. Et je pense que l'humain est excité aussi par ça. Mais c'est pas de le juger, c'est de... ou de le rendre justice, c'est vraiment de...
Ouais, poser la question.
De poser, de même, oui, juste poser la question.
Oui, je pense, et j'espère en fait en tout cas qu'en le montrant et en montrant cette violence, moi mon souhait le plus fort, c'est qu'on sorte et qu'on se dise en fait j'ai envie de faire le bien. Parce que je vois quelqu'un qui est tombé de l'autre côté, qui a choisi le mal.
Et voilà ce que
et en fait c'est un instinct que malheureusement l'humain a, le mal. C'est juste qu'on est éduqué, on est formé, on nous apprend évidemment les valeurs qu'on prône tous et toutes. Mais il y a des gens qui ne sont pas formés comme ça, des tueurs en série. Et moi, je pense que c'est en comprenant le monstre et non pas ayant de l'empathie pour lui ou en le justifiant ou en l'adulant. Il faut évidemment contrer le romantisme ou la romantisation du tueur en série ou du violeur et tout. Mais je pense que c'est en essayant de comprendre et en fait en ayant un point de vue qu'on se pose vraiment les questions en sortant en se disant « je n'ai pas envie d'être comme ça, j'ai envie de me battre contre ça. » Et malheureusement, parfois, je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce que ça raconte de moi que je sois d'accord avec ce mec? C'est fou. Et en fait, tu te remets toi-même, enfin moi en tout cas, je sais pas, mais on se remet en question parce qu'on se dit, parfois on est d'accord avec ce qu'il dit. Ouais. Ça raconte que j'ai pas du tout envie d'être d'accord avec ce mec. J'ai envie de le condamner de A à Z.
Oui, pardon, mais ça raconte peut-être aussi que le monde n'est pas aussi
unilatéral,
manichéen, et qu'on peut avoir des côtés sombres et des côtés sans pour autant devenir un monstre. C'est
absolument,
ça qui est extrêmement
important. C'est ce que tu viens de dire, c'est ça. C'est trouver la limite. La chercher en soi, parce qu'on avait, comme tu disais, on a tous cette part de bien et de mal. On doit tous flirter avec la violence intérieure qu'on a et les envies de meurtre qu'on a dans le métro quand on s'est fait marcher sur le pied et qu'on se dit celui-là, je lui foutrais bien mon poing dans la gueule. Mais tout ça, voilà. Et puis il y a la morale derrière et le théâtre sert à ça. Hein,
c'est la question qui se pose aussi dans le film Joker, où on voit tout le cheminement mental du gars qui pète les plombs, où je ne me souviens plus, le Chute libre, je crois que ça s'appelle, avec Michael Douglas, qui pète les plombs dans un embouteillage et qui commence à buter tout le monde. Et on se dit, ça peut être un gars lambda comme ça qui verse dans le côté obscur d'un coup, quoi.
Mais d'un côté, t'as la pitié aussi pour,
exactement,
pour le Joker qui fait des choses atroces comme ça, mais t'as une grande pitié aussi qui grandit en toi.
C'est ça, ouais.
Exactement.
C'est ce craquage total en disant, en fait, il a tellement subi de violence que c'est pour ça qu'il fait tout ça.
Je me souviens quand j'étais en fac d'histoire, il y avait le magazine, je crois que c'était l'Histoire ou Historia, qui publiait cette une qui était consacrée à Adolf Hitler et où il disait, est-ce que Adolf Hitler était fou? Et en fait, ce que les historiens disaient à l'intérieur, c'est que, en fait, ça rassure tout le monde de coller l'étiquette fou, monstre sur des personnalités, parce que ça évite qu'on ait à se questionner sur ce qu'on est. Ouais. Mais en réalité, on peut ne pas être fou et faire des choses horribles, malheureusement, et être ainsi balancé, quoi.
Mais Roberto Zucco, enfin Zucco et donc Zucco, enfin quand Goltès a écrit, a été beaucoup, beaucoup traité de schizophrène. Moi, c'est une question qui m'a beaucoup intéressée. Et en fait, je crois que c'est aussi, malgré le fait qu'on le traite hein, parfois un peu la schizophrénie dans le spectacle, en tout cas le fait qu'il entende des voix et qu'on a vraiment adapté aussi la pièce dans ce sens-là, moi je pense que c'est important de ne pas, pas réduire tout ça, d'assumer que malheureusement il est comme tout le monde et il va agresser une jeune fille, il va pas se questionner là-dessus. Et donc on a aussi beaucoup, on parle beaucoup de Roberto Zucco, mais il y a évidemment toutes les victimes qui l'entourent, tout le spectacle, qui ont la parole et qui parlent. Et je pense que c'est important aussi de le dire. C'est pas un seul en scène sur Roberto Zucco et essayer de que comprendre le monstre. Et non, c'est pas ça, c'est aussi un spectacle où il y a la pluralité des paroles au plateau et on fait son choix.
Des victimes.
Et des victimes qui restent, ça finit sur les victimes qui sont debout et lui qui ne l'est plus. C'est un spectacle en 2025, enfin, c'est pas du tout la même mise en scène qu'en 2018, on n'est plus dans le même monde, on se posait pas les mêmes questions. Je ne me posais pas les mêmes questions en tant que jeune femme en 2018 et en 2025, il n'y avait pas eu MeToo, il n'y avait pas eu tout ça. Aujourd'hui, c'est important de dire aussi que sa monstruosité, elle est aussi dans tous les personnages qui l'entourent et qui sont victimes. Il rend monstre les gens autour de lui. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est que malheureusement, quand on est victime, on tombe aussi dans nos propres travers. Mais il y en a qui se battent, il y en a qui abandonnent. Donc, il y a 10 personnes au plateau aussi. C'est important,
après,
je pense,
c'est
de le dire.
Il est sombre aussi.
Non, j'imagine.
Parce que tu disais tout à l'heure, je ne voudrais pas le croiser dans la rue. Mais ce qui est incroyable avec des gens comme ça qui cachent comme Ted Bundy, c'est que tu t'aperçois pas parce qu'ils sont tellement tellement normaux, c'est que ils marchent, ils peuvent te mettre une main sur l'épaule et salut ça va et tout ça, et ils continuent avec un
je pense que quand tu me mettras la main sur
l'épaule.
Mais c'est hyper d'actualité parce qu'en fait on l'a vu avec l'actualité qu'il y a eu en ce moment il y a quelques mois avec le procès de Gisèle Pelliquot, etc. C'est des hommes qui occupaient toutes les professions, qui étaient des hommes, monsieur tout le monde, quoi. Et effectivement c'est intéressant d'observer ça,
la normalité du mal.
Et à cela on ajoute un côté un peu badaud qui fait que comme on s'arrête quand il y a un accident de la route pour regarder, c'est pas ce qu'on veut voir, mais il y aura peut-être du sang et il y a ce côté sensationnel.
Absolument.
Qui attire les gens.
Parce que c'est animal aussi, on est des animaux,
je veux dire, c'est instinctif. C'est intéressant de confronter le spectateur à ça, quoi, se dire pourquoi je me suis pas levée, je suis pas partie de cette salle.
C'est ça, ouais.
Pourquoi j'ai été complice pendant une heure et demie de toute cette violence, qu'est-ce que ça raconte de moi, sans vouloir leur dire vous êtes pas bien, je serais restée dans la salle 1000 fois, j'aurais regardé jusqu'au bout, j'aurais bu toutes les paroles, je me mets exactement au même endroit. Mais je pense que ça questionne,
c'est
parce que
la schizophrénie de la metteuse en scène, parce que s'ils étaient tous partis elle se serait dit mais pourquoi est-ce qu'ils sont partis.
mais parce que évidemment faut pas partir, mais c'est juste que pourquoi
je vous incite à partir. C'est la meilleure pub avant.
Et pourtant, on a nos télés allumées en permanence sur des conflits absolument atroces où les gens se font.
Des chaînes infos qu'on regarde en boucle.
Et on continue à manger devant la télé et sans.
C'est ça, quoi.
Il y a une banalisation de la violence.
Mais je pense que c'est aussi parce qu'elle est banalisée, oui, mais parce qu'elle nous questionne, nous. C'est un miroir, la violence. C'est pour ça que je disais, il faut le mettre au plateau. Il y a énormément de pièces que je respecte énormément et des spectacles sublimes qui traitent de la parole des victimes aujourd'hui. Et c'est des spectacles évidemment immensément courageux, je pense, quand on est interprète ou écrivain ou auteur de ce genre de spectacle. Mais j'avais envie, moi, justement, de dire, mais je ne vais pas montrer que le bien pour les mettre en comparaison et qu'on en parle. Et il y a eu à la sortie du spectacle là, des débats entre des copains qui disaient, faut qu'il reste enfermé, mais non, faut qu'il s'échappe, mais non, mec, t'es fou de dire ça. Et j'étais là, c'est bon, on commence, je pense, à toucher ça, parce que c'est humain, en fait. La violence, elle fait partie de l'humanité. Parlons-en, je pense.
T'es comment à la fin du spectacle?
Je suis explosé. La seule chose que j'ai envie d'avoir, c'est une bière devant moi. Parce que je perds des kilos, je suis fatigué, je me dis, je deviens fou dans ma chambre. Je tourne en rond, je commence à parler italien, je mange des pizzas à 4h du matin. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est très lourd à porter, mais ça ne traite pas non plus que de violence dans le spectacle. Il y a aussi une question beaucoup d'amour, même si c'est plus caché que la violence, parce que la violence prend quand même beaucoup de poids dessus, mais il y a beaucoup même d'humour, d'amour, et on est accompagné par deux musiciens extraordinaires qui s'appellent Bivio, qui sont juste géniaux et qui arrivent à nous porter exactement et rentrer dans cette histoire sans vouloir mettre des couleurs ou des cases ou quoi que ce soit.
Roberto Zucco.
Zucco. Du coup, le nôtre, c'est Zucco.
Je suis bien ce qu'il dit, Roberto Zucco, ce sera à Avignon à partir du 5 juillet. À quel théâtre?
Théâtre du Girasol.
Allez le voir, parce que ça, je pense que ça va prendre un grand coup. Et puis, vous redécouvrirez ce remarquable comédien.
22h30.
Après 2-3 pintes, venez danser sur de la chanson italienne.
Et avant que nous prennent les siennes de pintes, vous serez
on prend tous des pintes ensemble après.
Restez avec nous. On va continuer à s'immerger dans tous ces univers riches. pour faire la petite bascule sur la deuxième partie de l'émission, je voudrais vous montrer comment, par exemple, la fiction télé montrait et mettait en scène aussi l'obscurité du mal et des tueurs en série. Cette fois-ci, on retourne en 1996. On est sur un créateur de série qui s'appelle Chris Carter, qui est signé aux frontières du réel, X-Files, et qui s'est intéressé lui aussi au serial killer avec Lance Erickson, qu'on avait découvert dans Alien, qui joue le rôle de Frank Black, membre d'un groupuscule d'enquêteurs du FBI qui enquête sur les serial killers. Ça s'appelait Millennium. C'est une série qui est absolument formidable, notamment dans ses deux premières saisons. Et je vous invite à voir un petit bout du générique tout de suite. Vous allez voir l'ambiance, on y est tout de suite. Regardez.
Verdâtre aussi parfois.
J'adore cette série. Lance Erickson joue donc Frank Black, membre du groupe Millennium, constitué d'anciens agents du FBI qui traquent, en tout cas dans la première saison, des tueurs en série. Premier épisode d'ailleurs assez cloque, suivi à l'époque que par 18 millions de téléspectateurs sur la Fox suit un tueur en série qui a pour modus operandi de coudre les yeux et les bouches de ses victimes. Donc ça donne des choses très esthétiques, très profondes. Et en fait, petit à petit, la série dérive, notamment dans sa deuxième saison, sur quelque chose de beaucoup plus ésotérique. Ouais. Le groupe Millennium est en fait un groupe qui entretient la lecture des textes sacrés pour provoquer lui-même l'apocalypse. Et donc on tombe dans un questionnement sur la nature du bien et du mal en saison 2, avec notamment des personnages intéressants comme une tueuse en série, Lord... qui est obscur, qui enchaîne des mecs dans des sous-sols et puis qui leur fait un lavage de cerveau profond, etc. Bref, il y a plein d'épisodes incroyables. Évitez peut-être la troisième saison qui est quand même un petit peu moins réussie. Ouais. Les deux premières sont absolument remarquables. Millennium de Chris Carter avec Lance Erickson, voilà, pour boucler cette petite partie dédiée aux tueurs en série et avant de basculer dans un univers qui est un petit peu sombre aussi, celui de Barbara finalement, mais d'un point de vue beaucoup plus artistique. On va venir dans un instant. On va avoir Lola qui va aussi nous présenter son livre dans deux petites minutes, mais toujours pour teaser sur ce qu'on va voir avec toi à la fin de l'émission, un autre générique d'une autre série, cette fois-ci je crois des années 90, qu'on avait découvert sur France 2 le dimanche après-midi, si je ne me trompe pas, dans les émissions de Dimanche Martin. Regardez toujours Mr. T, petite pépite, regardez.
T.S. Turner a pratiquement passé toute sa vie dans la rue, jusqu'au jour où on l'arrête pour un crime qu'il n'a pas commis. Amy Taylor est une jeune avocate pleine d'idéal. Elle prouve l'innocence de Turner et elle le renvoie dans la rue, mais cette fois comme détective privé. Aujourd'hui, ils forment un duo explosif.
Pas qu'on aura autant de discussions autour de Mr. T. duo explosif.
Mais oui, parce que c'est Turner, l'avocate qui sort de prison, T.S. Turner, l'accusé à tort, ouais. Et donc ils forment un duo, donc c'est TNT, ça fait la TNT. Donc
eh
voilà,
oui,
un duo explosif.
TNT,
voilà. Comme on savait faire dans les...
Et c'est culte, on a même envie de savoir directement, quoi. Ça y est, on lit le pitch, ça tient sur un timbre poste, hein, mais bon, on a envie de savoir.
Ça marche.
Ouais. Et ça marche, bien sûr que ça
et
marche.
Et on découvrait le dimanche après-midi sur Antenne 2 dans l'émission de Dimanche Martin. On va y revenir sur Mr. T. Tout à l'heure, on a encore des pépites que tu nous as retrouvées.
Ouais.
Si vous pensiez pas découvrir un jour un dessin animé autour de Mr. T, eh bien lui nous l'a retrouvé.
Il est là.
Et on va en reparler tout à l'heure. Je tease tout de suite. Lola, c'est à toi. Alors en général, il y a un effet mécanique. Vous nous avez donné envie d'aller au théâtre en voyant votre pièce et en écoutant vous en parler avec passion. Lola, elle a cet effet-là. C'est-à-dire qu'en général, quand elle présente un livre, elle donne envie de lire le livre qu'on a reçu.
Parce que c'est que des livres que j'aime.
Oui, parce que t'en parles bien aussi.
Déjà, parce que c'est des livres qui me font voyager, qui me... Ça, c'est des livres que j'aime beaucoup. En l'occurrence, Souviens-toi des abeilles, de Zinem Mekwar, aux éditions Gallimard, qui est un livre qui est super chouette, que j'ai découvert au Festival du Livre de Paris, il y a très peu de temps, je crois que c'était en avril. Et j'aime beaucoup ces livres-là qui nous font voyager, qui nous font découvrir d'autres endroits. On ne s'attendait pas à atterrir ici. On a les couleurs, on a les odeurs, on a les... vraiment les sensations des personnages, et je trouve ça absolument extraordinaire. Donc là, Zinem Mekwar, elle va nous emmener à côté d'Agadir, dans un des plus grands ruchers du monde. Vous pouvez voir tous les étages avec tous les ruchers qui sont organisés. On prête, ouais, Zinem Mekwar, qui est absolument génial. Et en fait, on prête à ces ruchers, à côté d'Agadir, des fonctions un peu magiques. On dit que le miel guérit, qu'il y a une malédiction qui s'abat lorsqu'on vole le miel d'un autre rucher qui ne nous appartient pas. Et on va suivre l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Anir, qui a une dizaine d'années. Et on le découvre tout bébé, alors qu'il est malade, il a une fièvre énorme. C'est un bébé qui est quasiment en train de mourir. Sa mère est absolument affolée, elle essaye de marcher, elle essaye de l'apaiser, impossible de l'apaiser. Elle se dit, bon, le dernier recours, la seule chose que je peux faire, c'est aller dans ces ruchers et aller lui donner un peu de miel. Et donc elle part en pleine nuit, elle sait qu'elle n'a pas le droit, que peut-être qu'elle s'expose justement à cette malédiction, et elle part dans ce rucher. Elle trempe ses doigts dans le miel, elle lui glisse un peu dans la bouche et ça sauve le bébé. Et donc le bébé est sauvé et malheureusement la malédiction va s'abattre sur cette femme. Parce qu'elle ne va plus parler, elle va rester mutique et ça va devenir un peu un personnage qui est très mystérieux dans cette histoire et surtout dans le village parce que les villageois ne veulent pas lui parler. Parce qu'il y a beaucoup de croyances, beaucoup de non-dits dans ce village-là et donc elle est maintenue à l'écart et elle va grandir. Le père de cet enfant va partir dans une autre ville et donc ils vont grandir un peu tous les deux. Avec le grand-père d'Anir, qui est un personnage qui est magique, c'est un peu le sage de l'histoire, qui est magnifique à retrouver, qui connaît par cœur la nature, qui connaît par cœur les abeilles, qui connaît par cœur justement ce rucher. Et donc c'est lui qui va donner cette magie-là à ce petit garçon, Anir, qui va découvrir la nature et qui surtout va essayer de se battre pour faire céder cette malédiction et pour enlever cette malédiction sur sa maman. Donc c'est une histoire qui est super jolie, on nous emmène à Agadir, on a les sensations, on a la chaleur, on a le sable, on a tout, et c'est vraiment une histoire qui est merveilleuse.
Parfait pour l'été.
Ah oui. Ouais, vraiment, et c'est un magique, enfin, le côté magique et le côté merveilleux, on le ressent vraiment, c'est-à-dire qu'on est porté, et on est juste émerveillé devant cette histoire-là, et on veut juste savoir ce qui se passe pour cette maman et ce petit garçon qui se bat pour elle.
On rappelle le titre.
C'est Souviens-toi des abeilles, de Zinem Mekwar, aux éditions Gallimard.
Voilà, ça donne une fois encore envie avec cette très très belle photo de couverture. Magnifique. Tu l'as découvert à l'édition du Salon du Livre.
Oui, au Salon du Livre.
Qui était dédié sur les pays de la Méditerranée.
Oui, en fait, j'ai eu l'occasion de travailler avec le Maroc pour le Festival du Livre de Paris. Et c'est une autrice qui est marocaine. Et donc, il y avait plein de livres marocains qui étaient mis à l'honneur. Et ici, en plus, avec ce décor-là qui était magnifique. Et en fait, elle est partie dans ce rucher. Et donc, la population locale lui a expliqué toutes les coutumes. Elle a pu le découvrir, un peu aller sur ses terres. Et je trouve que c'est une aventure qui est merveilleuse.
Un livre pour l'été, on rappelle. Souviens-toi des abeilles, aux éditions Gallimard. Merci encore, Lola. Tu nous as encore donné envie d'acheter un nouveau livre. Rendez-vous dans 15 jours pour la dernière de la saison. On va voir quel livre tu nous réserves
pour
faire cette... pour la plage. Idéal pour la plage. En tout cas, et de réécouter les très très beaux textes de Barbara. Ouais. Pour celles et ceux qui... peut-être la jeune génération qui connaîtrait un peu moins ces textes-là. Mmh. Moi, il y a une chanson, évidemment, on connaît tous L'Aigle Noir. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. On va découvrir un petit extrait de Barbara, se souvenir à la fois comment elle était, mais surtout pour voir pourquoi notre invitée, Caroline Montier, était évidemment l'interprète idéale. Voici un petit extrait de Barbara, regardez.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut j'étais précoce, de tendres amours de gosse, où les morsures d'un amour fou, du plus loin qu'ils m'en souviennent. Si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour,
Ça marche toujours, hein. Ça marche toujours. Ma plus belle histoire d'amour, ouais. C'est vous. Ouais. C'est votre plus belle histoire d'amour, cette rencontre avec Barbara sur scène.
Alors, je sais pas si c'est ma plus... Bah, en tout cas, oui, elle est pas mal, parce que déjà, elle dure depuis 2017, et elle est venue là sans que je m'y attende, en plus, voilà, un peu par inadvertance, puisque je le raconte dans le spectacle, mais un jour, j'ai plein de projets, j'ai un projet en chanson française, et on a commencé à me dire, ah, bah, tiens, tu ressembles un peu à Barbara, tu chantes Barbara, et je disais, je ne connais pas Barbara, ce qui est vrai, ce qui était vrai à l'époque. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas du tout été baignée ni de chansons françaises, ni encore moins de Barbara. Donc je suis une chanteuse classique, j'ai fait beaucoup de chants lyriques, de jazz, je connaissais la pop, etc. Mais je ne connaissais pas Barbara. À part l'Aigle Noir, que j'avais appris à l'école en cinquième, comme tous les gens de ma génération.
On ne savait pas de quoi ça parlait.
Donc, on ferait plus ça aujourd'hui.
je rappelle, c'est sur une agression sexuelle dont tu as été.
Mais on l'a su plus tard. La publication de ses mémoires bien après. Mais donc, je ne connaissais pas son répertoire. Et puis, je l'ai entendu une fois, deux fois, 10 fois, 50 fois. Les gens, à chaque fois que je chantais de la chanson française, on me disait mais tu devrais chanter Barbara, c'est dingue. Donc, je me suis penchée sur la question, évidemment, je l'ai écoutée et au début, j'étais effrayée. Je me suis dit, je ne peux pas interpréter des chansons aussi puissantes, aussi fortes, aussi pleines de d'émotions, en fait. Donc, j'ai mis ça de côté et j'ai pris quand même une chanson, Le Temps du Lilas. J'avais un duo guitare-voix que j'ai toujours, mais on se voit un petit peu moins. Et on avait un programme qui s'appelait Amour et botanique. J'ai chanté Le Temps du Lilas.
C'est cohérent.
Voilà, c'est assez cohérent. Et là, ça faisait un effet sur le public incroyable, si bien qu'un jour, je termine à peine ma chanson Le Temps du Lilas, et il y a un monsieur qui se lève et qui dit, on entendait les mouches voler dans la salle, « Madame Barbara est revenue parmi nous ce soir. »
C'est
incroyable. Ouais. Très beau, c'est et alors là, j'ai encore les poils qui se dressent.
C'est la clim.
et là, je me suis dit, ma fille, il faut que tu en fasses quelque chose, parce qu'il se passe vraiment, il y a une connexion.
Et attendez, avant de poursuivre,
on
va voir ce que ça donne quand vous en faites quelque chose.
Ah,
on a un petit extrait du teaser quand même.
Oui.
De ce petit teaser d'époque. Regardez d'époque. Caroline Montier, Barbara amoureuse. Regardez, absolument. Un petit extrait.
Je cherche un homme qui ressemble à un homme. Y a-t-il d'autres amants au monde heureux comme nous deux? Je ne sais pas dire je t'aime. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas dire je t'aime. Je ne peux pas.
Ça va, on est à fond là. Et voilà ce que ça donne.
Oui.
Et ça fait 8 ans.
Et ça fait 8 ans. Alors c'est marrant de me voir comme ça parce que le teaser il date du début de 2017. Donc il s'est passé un petit peu de l'eau a coulé un peu sous les
pas
ponts.
Beaucoup.
Et j'ai nourri, là je vois un peu de. C'est pas du mimétisme parce que j'ai jamais travaillé dans le mimétisme.
Le premier réflexe, c'est de se rapprocher de celle qu'on chante.
Ben, au début, on s'inspire, on s'imprègne, surtout que je l'ai écouté, puisque je ne l'avais pas écouté avant, il fallait bien que je commence à l'écouter à un moment donné. et pour relever les harmonies, pour relever les partitions, etc., qui n'existaient pas, enfin qui n'existent pas ou très peu. Mais donc c'est vraiment un travail musical de répétition et forcément on s'imprègne un peu. Et là, je me rends compte que ce que je fais aujourd'hui est encore plus proche de moi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je nourris. J'ai nourri de toutes ces interprétations de ma personnalité, évidemment. Et je pense que là, je reconnais un petit peu Barbara. On la reconnaît moins maintenant, je dirais.
Vous êtes plus, on voit plus Caroline Montier.
On voit plus Caroline Montier, évidemment.
Au fur et si je vous dis que pour moi, vous êtes un symbole, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? La raison pour laquelle moi, j'ai eu envie de vous faire venir, notamment, alors au-delà du fait que Luc Adam, qui vous représente, est absolument formidable, je le salue, il est en régie. Je trouve que vous êtes un symbole, est-ce que vous voyez pourquoi je dis ça?
Parce que je fais vivre le patrimoine de chansons françaises.
Un peu plus que ça. Par rapport à ce sujet qu'on parlait tout à l'heure, je trouve ça assez symbolique, même si c'est pas voulu, puisque c'était avant, que ce soit une femme qui se réapproprie Barbara aujourd'hui, quand on connaît la personne qui se l'était réappropriée au fil des années, à savoir Gérard Depardieu. Je trouve ça extrêmement intéressant et symbolique. Il a chanté Barbara sur scène. D'ailleurs, en toute objectivité, ça a été souvent salué par la critique.
Ah, oui,
et je trouve ça extrêmement symbolique et intéressant que ce soit une femme qui se réapproprie, entre guillemets, ce personnage aujourd'hui, avec toute l'implication et toute la symbolique forte de l'univers de Barbara, de ce qu'elle a raconté, de ce qu'elle était. C'est intéressant, je trouve.
Oui, alors, j'ai pas du tout pensé à ça. C'est vrai que toutes les chanteuses françaises de la Terre ont chanté ou chantent à un moment donné Barbara, ou sont intriguées, sont passionnées, sont... Voilà, c'était une vraie chanteuse, c'est-à-dire qu'elle a appris quand même à chanter, elle a pris des cours de chant, hein, c'est pas été le cas de tout le monde. Non, mais c'est vrai. Voilà. Alors, il y avait des voix naturelles, mais c'était aussi une voix naturelle, mais elle a travaillé énormément. Le succès n'est pas venu comme ça en 3 secondes, elle a travaillé sa voix, elle a travaillé son piano, elle a ramé pendant 10 ans avant de trouver sa place au cabaret de l'Écluse comme chanteuse de minuit. Hein, donc c'était la chanteuse qu'on venait voir. Mmh. Voilà, tout le public était arrivé et puis le clou de la soirée, c'était Barbara. Mais ça, c'était pas dès le début. Et souvent, on me dit « Barbara, c'est dur à chanter ». J'ai rencontré moi je suis prof de chant aussi, j'ai rencontré plein de jeunes femmes qui me disaient « Ah, c'est dur à chanter ». Alors, il se trouve que je suis aussi une chanteuse lyrique, donc j'ai appris, j'ai travaillé beaucoup ma technique, donc c'est un petit plus, on va dire. Mais oui, alors ça, effectivement, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, ça prend une autre dimension.
Et Barbara mérite peut-être qu'on la redécouvre encore aujourd'hui rapport à ces textes-là.
Alors, c'est ça.
Et par rapport à tout cet univers que vous avez mentionné, la découverte de la symbolique de l'aigle noir, qui paraît aujourd'hui effectivement évidente pour tout le monde, mais qui, quand on l'écoute, franchement, on peut comprendre que personne ne l'ait vu parce
bien
que
sûr,
c'est tellement crypté qu'il faut le comprendre. Mais c'est ça l'univers de Barbara, c'est du féminisme.
Oui, pur. Alors moi je mettrais quand même un petit bémol à ça parce que c'est une époque. Moi, j'ai fait un spectacle sur Gréco aussi. Donc, c'était quand même des sacrées nanas, très libres, très fortes. Je les compare parce qu'elles sont vraiment de la même génération. Et elles avaient un rapport aux hommes assez particulier et très privilégié. Et dans toutes ces chansons que j'ai choisies qui ne parlent que d'amour, donc que de relations hommes-femmes, pour le coup, puisque c'est Barbara et son vécu, il n'y a jamais d'amertume. Il n'y a jamais de grief. C'est-à-dire qu'elle parle de l'amour naissant, l'amour vécu, l'amour fini. Elle parle de séduction. Et elle n'a jamais de rancœur par rapport aux hommes qu'elle a aimés et qui l'ont délaissée. Parce que la fin de l'histoire, c'est quand même la solitude. Et puis, elle est décédée dans une situation de grande solitude, en tout cas.
Dalida, par exemple.
Comme Dalida, voilà, elle était assez dépressive. Mais jamais il n'y a d'amertume et d'aigreur vis-à-vis des hommes. Et ça, c'est intéressant, je trouve, quand même, de nous renvoyer à une époque où tout n'était pas... Évidemment, il y avait énormément de choses à faire, hein, ce qui s'est passé,
oui.
Heureusement, depuis. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir son opinion aujourd'hui. Mais il y a quelque chose d'assez...
Que ce soit l'opinion que tout le monde attend, en plus. Parce que ce soit aussi radical que ce qu'on pourrait attendre.
Ouais. Absolument.
Une acceptance différente. Ouais.
Mais je veux dire, quelque part, transparaît une espèce d'entente idéale de rapport homme-femme idéal qui ne l'était pas, et, mais qu'on évidemment souhaiterait aujourd'hui, mais vers lequel on aimerait tendre, vous voyez. Et donc c'est quelque chose d'un peu apaisé et pas dans le...
La revanche, le conflit,
alors les hommes c'est tous des... Voilà, il y a quelque chose de très doux et en même temps de tellement poétique et tellement actuel, tellement universel. Moi j'ai un plaisir immense, des fois on me dit mais t'en as pas marre de chanter Barbara? Non seulement j'en ai pas marre.
J'allais vous demander parce que ça fait quand même 8 ans que vous portez ce spectacle.
Oui, alors j'ai fait des pauses quand même, j'ai pas chanté pendant 8 ans, puis je fais plein de choses évidemment à côté, mais... C'est intéressant, pas plus tard qu'hier soir, il y avait une jeune femme qui l'a vue 3 fois et qui me dit « mais t'as changé des choses ». Elle l'a vue il y a cet hiver, là, j'ai chanté entre novembre et janvier. Je lui dis « mais non, c'est le même spectacle qui n'a pas bougé, c'est les mêmes chansons, 19 mêmes chansons depuis 2017 ».
19, c'est beaucoup. Ah, c'est...
Et elle me dit « mais j'ai l'impression que t'as rajouté des choses ». Donc ça veut bien dire que mon interprétation, ma lecture change,
évolue,
se nourrit. Et ce qui me passionne, c'est quand je tombe sur des grands amateurs de Barbara qui connaissent, qui des fois sont un peu réticents à venir voir une nouvelle interprétation, et qui, en sortant, me disent « je l'ai redécouvert, je l'ai réentendu autrement. Quelle poétesse, quelle femme incroyable, quelle délicatesse, quelle intelligence de l'amour, quelle... » Voilà,
Barbara, la chanson la plus difficile, ou celle qui vous demande le plus d'énergie, peut-être sur scène, est-ce qu'il y en a une?
La solitude. La solitude, en plus, elle vient à la fin. Hein.
Évidemment. Bon. Après, c'est la
19e. C'est la 18e. Après, il y a un bis un peu plus léger. Il y a un bis un peu plus léger.
Une piste cachée.
Oui, oui. Non, c'est vrai que c'est un tour de chant qui. Un copain me disait oui, bon, ça va, tu fais pas les pieds au mur. Non, je fais pas les pieds au mur. C'est-à-dire que par rapport à un rôle d'opéra que j'ai déjà eu le plaisir de chanter. Mais par contre, au niveau intensité d'émotion, je finis, je suis comme toi, c'est que moi je suis lessivée.
C'est raté.
Hein. Je suis fatiguée. Hein. C'est vraiment, c'est extrêmement, extrêmement intense d'être dans les mots tout le temps et puis de s'accompagner aussi, évidemment. Mais...
J'ai une anecdote un peu folle, c'est le hasard vraiment de la rencontre. J'ai très bien connu un monsieur qui était un amant de Barbara, dont elle parle dans ses mémoires. Elle le cite que par son initial, le H.
Ah, mais j'en parle dans le spectacle, Hubert H.
Hubert, voilà.
L'as très bien connu.
J'ai très bien connu Hubert Ballet, qui était donc un monsieur lié à plus mon domaine. Il avait fait des séries télé, des dessins animés surtout, dont le dessin animé Watou Watou.
Ah bah oui.
Voilà.
C'est dingue.
Ouais, et il lui a écrit des textes. Et j'ai très bien connu Hubert, qui était diplomate en Afrique.
Ah bah je raconte ce passage,
je viendrai te voir alors.
Et
il m'a parlé plusieurs fois de Barbara en off comme ça, et c'est assez rigolo parce que je retrouve vraiment ce qu'il m'a dit.
Grosse personnalité, grosses personnalités qui ont fait des étincelles.
Un être vraiment incroyable qui a fait des choses en Afrique, qui a créé des écoles, des orphelinats. Un type incroyable. Ouais, j'ai une chance folle de le connaître.
Caroline Montier, Barbara amoureuse, et si je devais faire un très mauvais jeu de mots, je dirais.
Le fait
les matières, c'est Caroline Montier qu'on préfère. C'est la mise en scène de Caroline Loeb. Évidemment.
Avec qui j'ai...
Chanteuse et comédienne qui met aussi en scène ce spectacle. Voilà, et que, évidemment, pour les plus jeunes, pas connu Caroline Loeb. Tu connais?
Non.
De toutes les matières, c'est la boîte que je préfère.
Oui,
c'est aussi une grande actrice. Et metteuse en scène qu'on salue et qu'on essaiera peut-être de recevoir, ça peut être sympa.
Avec plaisir, elle a plein de projets super. Là, je l'ai quittée tout à l'heure, je la retrouve dans une heure.
On l'embrasse, Caroline Loeb, mais en attendant, allez voir. C'est jusqu'au 24 juillet, les mercredis et jeudis à 21h, pour découvrir cet univers de Barbara. Et on était ravis aussi dans cette émission de parler de cette grande dame, puisqu'on aime bien regarder aussi dans le passé, de s'intéresser à cette grande dame réinterprétée par vous, chère Caroline Montier. C'est quel théâtre, on n'a pas dit? C'est
Théâtre Essaillon. Petit théâtre dans le Marais, métro Hôtel de Ville ou Rambuteau. C'est juste derrière Beaubourg.
Allez la voir, vous allez régaler, 19 titres intense avec Barbara. Je m'appuie là-dessus, je devrais pas m'appuyer là-dessus parce que si je m'appuie sur lui dans la vraie vie, j'aurais déjà la tête décalquée. On arrive à la fin de cette émission et on termine comme toujours avec notre petit bouquet final.
Ah, c'est moi,
c'est toi, notre bouquet final.
Oui, voilà, tu vois, ça,
c'est... Ah, c'est pas mal. On a parlé série, dessin, film, Rocky. Bah ouais, Mr. Chi, il a aussi été le héros d'un dessin animé. Alors voici un petit bout du générique, vous allez voir. Oh, tu peux ressembler.
Regarde, il y a quelque chose.
Et voilà, dessin animé, il est là,
il est là.
Mais sorti.
Ouais.
On le connaît, alors, intéressant, on sait jamais qui est l'œuf, qui est la poule. C'est quoi, c'est Rocky le premier, c'est...
Ouais, bah, c'est même bien avant ça. Mr. T, je voulais le mettre à l'honneur parce que, voilà, le dessin animé est là. C'est un personnage vraiment à part entière. C'est une marque à lui tout seul, quoi, Mr. Ouais. T. Et son histoire est vraiment très intéressante parce que bah, c'est un afro-américain. Et il est né au mois de mai, comme ce cher Alexandre Le Train. Mais bien avant, il a fêté ses 73 ans, il n'y a pas longtemps. Comme vous aussi,
bah, voilà. Oui, moi aussi.
Ah, mais alors, il y a des taureaux, c'est ça? Dans l'assemblée. Son vrai nom, son prénom, c'est Lawrence en anglais, et Turo, c'est un nom français, et il a des origines donc afro-américaines avec donc ce patrimoine comme ça de vouloir mettre en avant la culture black, mais aussi les racines et puis l'esclavage dont ils ont souffert. Et donc c'est un personnage qui était au départ garde du corps, et au tout début videur dans des boîtes de nuit. Et en fait, c'est là que la légende est née de Mr. T. Il voulait pas qu'on l'appelle ni Lawrence ni Turo, et ses parents, ses grands-parents se faisaient appeler Boy, parce que les Boys, c'était bah, les esclaves, on les appelait les Boys. Et donc il s'est dit, lui, je vais trouver un nom qui fait qu'on m'appellera toujours Monsieur. Et donc il s'est dit, voilà, ah, c'est Monsieur T. Et, c'est pas, et pour toi, c'est rien d'autre que ça, donc c'est Monsieur. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est née la légende. Et puis pourquoi il a eu toutes ces chaînes en or autour du cou? C'est parce qu'en fait, ce sont ces trophées de videurs de boîtes de nuit en disant, tu vois ça, bah, c'est tout ce que j'ai pu amasser des mecs qui m'ont fait chier, pardon pour le terme, mais c'est un peu ça. Et donc il a porté ce poids comme ça en disant que c'était aussi le poids des esclaves. Alors bon, il y a une symbolique autour de ça, il y a une légende qui s'est écrite autour, et il a été aussi donc garde du corps de stars, donc il a été le garde du corps de Michael Jackson, de Mohamed Ali, quand même, quoi. Alors est-ce qu'un boxeur a besoin d'un garde du corps? Bon, bah, qui protégeait qui, voilà.
On vous mettra des photos dans le billet de l'éclair, elles sont dingues.
Voilà, et donc il a créé sa marque, et puis bah, il s'est fait effectivement, donc il a fait tout d'abord du catch,
ouais,
avec Hulk Hogan, qui était donc le gars qu'on voit dans Rocky 3 aussi.
Très proche de Trump aujourd'hui. Très proche.
Qui est un géant tout bronzé, blond, avec une énorme moustache comme ça, et qui se fait appeler Hulk, parce que bah, comme le personnage, il ressentait pas la douleur, il devenait dingue.
Il est tout vert.
Non, il est pas tout vert, mais il est tout bronzé.
Il est tout jaune.
Il est tout jeune et orange, ouais, il y a quelque chose. Et donc il s'est fait connaître dans le film, enfin il s'est fait connaître comme ça, et donc Sylvester Stallone l'a vu en disant oula, toi tu m'intéresses, parce qu'il avait vu une interview de Mr. T qui disait, le journaliste lui demandait pour son match de catch où il faisait un peu de boxe, il disait qu'est-ce que vous avez comme message, il disait bah, j'ai vraiment de la peine pour le mec qui va m'affronter, quoi. Et donc cette phrase est restée, voilà, c'était sa phrase emblématique anglaise, c'est pity the fool. Ça veut dire, j'ai vraiment de la peine pour tous ces guignols qui vont m'affronter. C'est resté. Il a rajouté après Stay at School. Donc il a donné. Il est devenu une sorte d'emblème noir américaine de réussite, en disant tu écoutes, reste à l'école. Voilà. Et en France, ça a été traduit par fais pas le guignol, reste à l'école. T'entends? Donc.
Tu m'impressionnes beaucoup moins que Mr. T.
Bah oui, je sais. Bon, j'ai
Monsieur,
un peu,
A.
Monsieur A. Le A. Et donc, c'est devenu voilà, un personnage qui a explosé dans l'agence touriste.
Effectivement. Au point qu'il y ait ses jouets.
il a ses jouets, voilà. Et on a, bah, forcément, on le voit, c'est un personnage, voilà, c'est comme Superman, c'est comme un, c'est un héros moderne, des temps modernes, mais avec des bonnes valeurs. C'est-à-dire qu'il refusait, par exemple, dans, il y a eu un point de, jouets, un point de divergence dans le film de l'agence Twist qui a été adapté récemment avec Liam Neeson, et voilà. Et il a pas voulu faire un caméo dedans, c'est-à-dire une apparition comme les autres ont pu le faire, parce qu'en fait, il y avait trop de scènes de violence explicite, alors que lui a toujours prôné des scènes de violence certes, mais en disant un rappel à l'ordre, en disant écoute, voilà, c'est mal ce que tu fais.
Plus la western spaghetti.
Oui, oui, oui. Et puis, mais volontaire, tu sais, en disant écoute, c'est mal ce que tu fais. Il y avait pas de sang, il y avait pas de. Alors, il tirait partout dans l'agence touriste, mais on voyait pas de, voilà, de choses qu'on voulait pas voir. et donc, il a créé ce personnage et c'est il était très aussi très coté. Il était notamment le chouchou du couple Reagan en 1984.
Attends, on va voir, avancer les photos, parce qu'il y a des photos qui circulent, on va voir, voilà, ça se regarde. C'est Nancy Reagan, quand même.
C'est madame la présidente, non, madame Nancy
The
Reagan,
First Lady.
Voilà, qui était sur ses genoux, et puis bon, il y a la gamme de jouets qui a été lancée, dont je vous ai apporté la poupée aujourd'hui. Mais il y avait cette notion de dire, va à l'école, lis des livres, voilà, Lola, lis des livres, continue, c'est bien, et remplis-toi la tête, parce que c'est pas les muscles qui mènent à tout. Ouais, c'est vachement bien. Il est apparu dans Arnold et Willy, évidemment. Donc, dans un épisode culte où il y avait le grand T et le petit T, donc je vous laisse deviner qui faisait quoi. Et Arnold voulait se créer ce personnage parce que forcément il était petit, il se faisait embêter à l'école. Et donc, il y a une très belle morale en lui disant écoute, non, reste toi-même, tu vas te faire aimer pour ce que tu es, t'as pas besoin de devenir moi. Et donc, voilà. Il est apparu aussi dans d'autres. Donc, il a eu son personnage dans Les Simpsons. Il a eu son personnage aussi dans Ricky ou la belle vie, donc où il est le garde du corps de Ricky, qui est un gosse de riche, voilà, qui se fait taper aussi, et donc il arrive comme ça en disant bah qu'est-ce qui se passe, et puis au lieu de taper sur tout le monde, il leur fait la morale, il leur explique en disant mais non, regarde, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est chacun fait, il y a tout pour faire un monde, comme disait dans les paroles du générique de Arnold et Will, donc c'était repris. Et voilà, ce personnage aussi est très intéressant parce qu'il est chrétien.
Ouais.
Et il a affiché sa religion depuis notamment l'ouragan qui avait touché le sud des États-Unis. Et il est venu aider Katrina et d'autres aussi dans le sud des États-Unis. Et en fait, c'est là qu'il a décidé de retirer cet or en disant bon, bah voilà, j'ai plus rien à prouver. Et puis c'est un peu brutal d'arriver avec toute cette fortune autour du cou, parce qu'il y en avait pour plus de 350 000 dollars à une époque, quand même, et de dire avec des gens qui crèvent la dalle et qui n'ont plus de maison. Donc il a fait don d'une partie de tout cet or pour reconstruire les maisons, et il est venu aider. Donc c'est quand même un mec vachement bien, quoi, 73 ans. Voilà, il a fait la pub pour Warcraft, il est très décalé un peu à la Chuck Norris. Il sait qu'il a une image comme ça, mais il l'utilise à bon escient.
Et on va terminer avec la morale de l'histoire.
Ah oui, alors voilà. Dans le dessin animé de Mr. T qu'on a vu, il apparaît en chair et en os au début et à la fin en disant « Écoutez, l'histoire d'aujourd'hui, c'est pas bien ce qui va se passer pour le jeune machin. » Et à la fin, il faisait la morale, quoi, aussi. Et donc, je trouvais que c'était pas mal pour toi, Alexandre, cette morale.
Ah, alors, on va l'écouter. Alors, voyons voir ce que ça donne. Regardez pour finir.
Vous l'avez vu, tout s'est arrangé cette fois encore. Les faux moines sont en prison pour des années et mon équipe a repris la route. Mais écoutez-moi bien, je ne vous le dirai qu'une seule fois. Si un jour vous pensez faire une mauvaise action, et même si la raison en est excellente, réfléchissez. Parce que personne ne sait à l'avance ce qui en sortira. Le pire pourrait arriver, il faut bien le savoir. Vous aurez alors de graves problèmes. Évitez ça. Et ne faites rien de mal. Croyez-en à votre ami. Mr. T.
Ça rejoint vachement ce qu'on disait. Sur
mais ça reprend ta pièce de théâtre aussi.
Ça reprend tout.
Belle transition.
Voilà. Bravo, bravo. Bien pensé, bien pensé. Moi, j'ai fait ma bonne action, vous êtes là.
Ouais, bon, c'est bon.
Je suis ravi. Mr. T, donc, personnage intéressant à redécouvrir. Il est là.
Ouais.
Réfléchissez à deux fois, on ne sait jamais ce qu'il va en sortir.
Oui, parce qu'il vous regarde.
Il est là. Il le sait. Moi, je te surveille. Voilà. Je te surveille. En attendant, si vous voulez faire une bonne action, vous allez voir Roberto Zucco au théâtre à Avignon. Du 5 au
26.
Au 26, donc tout le temps.
Donc tout le temps.
Et il va être lessivé, le garçon.
19 dates.
Je me prépare gentiment.
Alors, juste pour les gens qui sont à Avignon, pour les fournisseurs de bière, on a besoin à partir de minuit, le soir, il est là, avec modération, il sera là pour vous accompagner.
Tu devrais dire, je tuerai pour une bière, je pense que
on va aller dans le spectacle, on va faire une com avec Heineken.
T'en auras des gratos.
Voilà,
exactement.
Et puis, si vous ne partez pas à Avignon, vous allez à Paris. À découvrir Caroline Montier. Du mercredi et jeudi à 21h, Barbara Amoureuse, pour redécouvrir l'univers de Barbara.
Au théâtre
et
de
on est ravis de vous accueillir tous les trois. Merci beaucoup. Merci à Luc Adam qui était derrière et qui nous a fait une bien belle émission encore aujourd'hui avec notre invité de l'émission. Merci à vous deux d'être là.
Avec plaisir.
Encore une fois, pour m'accompagner. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera. l'épisode pilote d'un rendez-vous qu'on va vous donner tout l'été, le Club Croque l'été, pour accompagner la sortie de cet ouvrage sur Croque Vacances. Et dans 15 jours, la dernière du club, la dernière du club avec Lola, avec Arnaud et avec nos invités. Nous aurons, alors, rebondissement, retour dans le passé. Si vous vous souvenez des années 90 et de l'Empire Disney, vous vous souvenez peut-être d'une jeune chanteuse qui chantait, qui animait Disney Parade avec Jean-Pierre Foucault, qui était l'égérie Disney, elle s'appelait Anne Mason. Eh bien, elle sera avec nous dans 15 jours pour finir cette saison aux couleurs de Disney, voilà, notamment. Mais il y aura d'autres surprises. Merci à vous trois.
Merci à vous.
Merci à mon Rob, encore une fois, champion, pour avoir géré le club. On t'embrasse, mon ami, et on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure. Les portes du club se referment. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à tous.